Alors nous poursuivons notre enregistrement sur les sens spirituels. Nous abordons maintenant le sens moral ou tropologique. Donc tropologique du grec tropos, tour, manière, et logos, science. En fait, il s'agit d'une tournure d'esprit qui consiste en l'emploi de figures dans lesquelles on utilise les mots avec un sens différent de leur sens habituel. Donc, contrairement à ce que le mot tropologique laisse à penser, rien de bien mystérieux dans ce sens spirituel. Alors que l'histoire et l'allégorie procurent l'édification de la foi, à la tropologie revient l'édification des mœurs. D'où l'utilisation du nom moral comme synonyme. C'est sûrement le sens spirituel le plus utile de nos jours. Il pointe vers deux directions. D'abord, l'actualisation du texte biblique à l'échelle de nos vies. Ainsi, en lisant un texte biblique, l'interprétation morale nous incite à chercher en quoi un texte peut concrètement nous aider à avoir un agir juste dans nos vies quotidiennes. Saint Paul ne dit pas autre chose en 1 Corinthiens 10, versets 6 à 11 et en Romains 15, verset 4. De même, l'apôtre donne un autre exemple en 1 Corinthiens 9, verset 9, par l'interprétation qu'il fait de ce passage de Deutéronome 25, verset 4. « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. » Nous voyons bien qu'ici le sens tropologique ou moral vise à nous enseigner comment diriger justement notre conduite. Jugez-en plutôt. Dieu se mettait-il en peine des bœufs? N'est-ce pas évidemment pour nous qu'il parle? Donc 1 Corinthiens 9, 9. Le sens littéral de Deutéronome 25, 4 nous livre un limpide précepte de sagesse agricole. Il faut permettre aux bœufs qui travaillent de manger. Mais ici, Saint Paul trouve à ce commandement une signification nouvelle. Le bœuf désigne les apôtres qui ruminent la parole et labourent le champ de Dieu, sens allégorique. Bœuf égale apôtre, fouler le grain égale ruminer la parole ou labourer le champ de Dieu. À ce titre, donc, ces apôtres auraient bien le droit d'en retirer quelques avantages matériels. Nous avons donc bien ici un sens moral destiné à produire un comportement juste dans la communauté. Notez également que dans cet exemple, le sens allégorique sert de point de départ à l'interprétation tropologique. Le précepte de Deutéronome 25,4 devient donc « Tu ne refuseras pas au prédicateur de l'Évangile le droit de vivre de l'Évangile ». Nous avons bien là un sens spirituel, moral ou tropologique. En résumé, il s'agit de trouver le sens moral de tel ou tel texte biblique qui permettra d'appliquer le texte sacré à l'expérience existentielle de chaque croyant ou bien encore de chaque communauté, voire de l'Église tout entière. Ensuite, l'autre direction pointée par l'interprétation morale est d'une modernité surprenante. On peut même aller jusqu'à dire que les pères de l'Église ont été révolutionnaires. En effet, le sens tropologique cherche également dans le texte des figures, des vices ou vertus, des passions ou des étapes que l'esprit humain doit parcourir dans son ascension vers Dieu. Confère Marc chapitre 7 versets 1 à 23 où Jésus nous invite à avoir cette introspection sur le péché qui nous habite. Donc ce sens concerne la dimension intérieure de l'homme, sa psychologie ou comme diraient les pères, l'âme humaine. Ainsi, l'échelle d'interprétation s'adapte aux dimensions du cœur de l'homme plutôt qu'à l'histoire de l'humanité, de l'Église, etc. En d'autres termes, cette interprétation nous invite à une prise de conscience de l'existence de tout un monde invisible, l'âme, l'inconscient, d'où l'action de la grâce divine est loin d'être absente. Nous pouvons à cet égard établir une subdivision qui s'avérera bien utile dans nos interprétations spirituelles, tropologiques ou morales de la parole de Dieu. Voici cette subdivision. Donc, premièrement, interprétation centrée sur notre propre âme, notre propre cœur, notre propre inconscient, bref, notre vie intérieure propre, travaillée par la grâce, notamment par le biais de la prière. Cette tournure tropologique tournée vers soi-même oriente notre lecture et notre vision interprétative vers cette finalité, notre édification et notre progrès spirituel vers lesquels tend le travail souterrain de la grâce, appuyé par notre prière, confère Luc 13, versets 20 à 21. Nous avons là un véritable encouragement à la persévérance dans la prière. De même, par ce sens tropologique, nos efforts prennent une coloration différente. Ils ne sont là que comme appui à la grâce divine, qui elle-même est portée par notre prière. Nous sommes donc invités à relativiser nos efforts, notamment quand ils semblent inutiles à court terme. Ils sont nécessaires, mais non premiers, comme nous le rappelle l'interprétation morale, qui nous oriente toujours vers le travail de Dieu en nous, travail nécessitant d'abord une foi fervente, dont nos efforts sur nous-mêmes ne sont en fait que le signe et l'attestation. Cette foi se manifeste donc pleinement par la persévérance de notre prière, persévérance reflétant notre compréhension du fait que Dieu a besoin de temps puisqu'il nous modèle au rythme de nos libertés mal utilisées, de nos réticences plus ou moins assumées, etc. Notons également que nos échecs sont ainsi dédramatisés. Ils ne sont que des incidents de parcours, Dieu ne cessant jamais de travailler dans le secret de notre âme. Bien loin de nous laisser ronger par un remords paralysant, nous sommes incités à nous relever. Ensuite, toujours centré sur la vie intérieure, distinguons l'interprétation centrée sur l'âme, le cœur, l'inconscient des autres, c'est-à-dire leur vie intérieure que la grâce divine peut travailler par l'intermédiaire de notre intercession. Cette tournure tropologique tournée vers l'âme de l'autre, son cœur, sa vie intérieure, son monde invisible, à lui en définitive, oriente notre lecture et notre vision interprétative vers cette finalité. La conversion de l'autre vers lequel tend le travail souterrain de la grâce, appuyé par notre intercession. Alors ici, je vous renvoie à plusieurs passages, Marc 9, 28, 29, Romains 10, 1, Éphésiens 1, 16, 17, Éphésiens 6, 18, 19, Philippiens 1, 19, Colossiens 4, 3, 2 Thessaloniciens 3, 1, Jacques 5, 16, 1 Jean 5, 16. Donc, comme je disais, nous avons là un véritable encouragement à la persévérance dans la prière, dans l'intercession pour nos frères. Donc, de même, par ce sens moral, nous voyons effectivement que nos actes de charité envers ceux pour qui nous prions prennent un relief différent. Ces actes sont en fait des prolongements de notre prière. Ils se font à l'image de nos intercessions, vecteurs d'évangélisation, dans la mesure où ils sont à vivre comme un appui à la grâce divine, travaillant le cœur de ceux pour qui nous prions. Or, appui et prolongement soulignent bien que ces actes ne sont pas premiers. C'est bien la grâce divine qui est première dans ce travail de conversion, nous rappelant par là la nécessité d'être patient et persévérant devant un travail qui nous échappe, parce que précisément, il se fait à l'intérieur des cœurs par un Dieu donc, dont la grâce est le reflet de son amour profond et efficace, certes, mais également aimant et donc respectueux. Ainsi, par certains côtés, nous sommes invités à relativiser nos œuvres ou l'efficacité de nos actes de charité, notamment quand ils semblent inutiles à court terme, au vu parfois du manque de changement visible chez ceux qui sont l'objet de notre intercession et de nos efforts aimants. Mais d'un autre côté, cette prise de conscience du travail de la grâce divine, pétrissant lentement mais sûrement la pâte du cœur de ceux qui sont au bénéfice de nos prières, confère Matthieu 13, 33, au gré la grâce divine qui pétrit le cœur de ceux qui sont au bénéfice de nos prières, au gré de leur réticence, de leur crispation et de leur liberté mal comprise, donc tout ça devrait également être un encouragement à persévérer dans la prière et dans l'amour de nos frères. Cela, en effet, nous donne-t-il pas de la densité à nos efforts, à nos actes de charité, de savoir que ceux-ci sont en quelque sorte des authentificateurs et donc des accompagnateurs, des dynamiseurs de nos prières et de nos intercessions qui elles-mêmes sont support de la grâce divine. Donc c'est ainsi que, quoi qu'il arrive, nous sommes appelés à ne pas nous laisser décourager, sûrs que la grâce de Dieu travaille nos frères, accompagnée et dynamisée qu'elle est, par notre intercession et notre charité envers eux. De plus, cette vision l'interprétation morale offre une nouvelle compréhension du pardon, quand celui-ci est vécu comme l'acte de charité suprême envers ceux que nous pardonnons, acte renforcé et affermi par notre demande et notre intercession auprès de Dieu pour qu'il pardonne lui aussi ceux qui nous ont offensés. N'est-ce pas là, à l'instar des psaumes, voire ci-dessous, un abandon à Dieu pour que son pardon envers nos débiteurs agisse en toute justice et amour au lieu d'une vengeance stérile qui n'entraînerait ni repentance ni progrès spirituel chez ceux qui nous ont fait souffrir. Confère par exemple acte 7 verset 58 et jusqu'au chapitre 8 et qui est à rapprocher de acte 9 verset 1 à 25, parce qu'il est en effet clair que dans ces passages que le pardon d'Étienne a joué un rôle mystérieux dans la conversion de saint Paul. Voir également Luc 23, 34, où Jésus prie pour le pardon de ceux qui l'ont mis en croix. Sans cette prière du Christ, ne serions-nous pas finalement tous tenus responsables par Dieu de la mort de son Fils, avec pour conséquence la damnation définitive de toute l'humanité? À sa suite, nous sommes nous aussi invités pour prier pour ceux qui nous persécutent, voir Matthieu 5, 44 et aussi Romains 12, 19 à 21. Enfin, ajoutons que l'interprétation morale ou tropologique est véritablement salvatrice pour des livres tels que les psaumes ou l'Apocalypse. Ainsi, par exemple, après s'être assuré de comprendre, grâce à l'analyse historico-critique, le pourquoi d'une telle haine dans le message littéral de certains psaumes, époque guerrière, limite des auteurs humains, etc., notamment quand ils appellent la malédiction sur les ennemis, leur mort, etc., comme en ces passages, que les pécheurs soient retranchés de la terre, qu'il n'y ait plus de méchants, mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Psaume 104, 35, et encore, et moi j'annoncerai toujours dans mes hymnes de Jacob, je briserai le front des impies et le front du juste s'élèvera. Psaume 75, verset 10 à 11. Donc dans ces passages, que l'on se souvienne alors de l'interprétation morale, qui nous encourage à voir dans ces invectives non pas le souhait de la destruction du pécheur, mais bien plutôt le souhait de la destruction du péché en nous et en nos frères. Remarquons, soit dit en passant, que les psaumes constituent tout de même un réel progrès. En criant à Dieu notre désir de vengeance et notre rancœur, voire notre haine de l'autre, nous lui confions ces sentiments plutôt que de les crier à nos ennemis. C'est donc déjà, et ce, dès l'interprétation littérale des psaumes, un début d'abandon à Dieu. Car lui faire part de notre désir de vengeance, par exemple, c'est lui demander d'intervenir pour nous, d'exercer sa justice à lui, en lieu et place de notre propre vengeance. Dans ce même ordre d'idées, en chaussant les lunettes du sens tropologique, il nous est possible de constater que l'Apocalypse peut s'interpréter également à l'échelle des luttes qui peuvent se faire jour dans l'âme humaine face à l'appel de Dieu pour une conversion sincère et véritable. Le livre nous y invite d'ailleurs dès le début. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, 17, 22. Notons par ailleurs que les codages et chiffrages si fréquents dans l'Apocalypse sont dus, comme nous le montre l'analyse historico-critique, au contexte historique qui, à l'époque, était pour le moins dangereux pour les premiers chrétiens, menacés qu'ils étaient par Néron, puis par Domitien. Rien de bien sulfureux, en fait. Il faut savoir que cette page qui vous est lue est bien sûr disponible sur le site internet. Il y a à ce moment-là, après le sens tropologique, un lien qui vous invite à un petit résumé sous forme de croquis. Donc si vous voulez aller sur la page web et voir ce petit croquis et l'imprimer, pourquoi pas. Donc maintenant passons au petit C, c'est-à-dire au sens anagogique, du grec anagogé, action d'élever l'âme, élévation de l'âme. Ce sens nous oriente vers une échelle nettement plus grande que le sens moral et son accent mis sur l'âme humaine, puisqu'il concerne l'histoire, la victoire finale sur le mal, le triomphe du Christ et de son Église, les fins dernières et enfin le ciel lui-même. La Jérusalem céleste, pour citer l'Apocalypse, confère Apocalypse 21, 1, 22, 5, sans oublier la vie après la mort. Voilà tout ce qui est l'objet de ce sens anagogique. L'Apocalypse dans sa totalité, bien sûr, peut être interprétée dans ce sens. En définitive, le sens anagogique et le sens tropologique, dans son interprétation orientée vers la vie intérieure, sont complémentaires, dans la mesure où ils pointent tous deux vers le monde invisible, mais comme il vient d'être dit, à une échelle différente. Alors que l'interprétation anthropologique nous plonge dans l'invisible de la vie intérieure et de l'inconscient, le sens analogique élève notre regard vers l'invisible, que sont la fin des temps et le ciel avec tout ce qu'il renferme, Dieu, ange, démon, etc. De plus, le sens analogique rejoint en de nombreux cas le sens historique quand on élargit l'histoire d'Israël aux dimensions du monde, de l'Église et de la fin des temps. Ainsi, le destin d'Israël exilé, puis rapatrié sur sa terre après avoir été purifié par l'épreuve, peut trouver une certaine résonance dans le destin du monde, ou bien encore dans celui de l'Église, qui, sur cette terre, notamment en ces jours, traverse l'épreuve de la désaffection avant le renouveau de la fin des temps, synonyme de retour du Christ. Ce renouveau de l'Église, attendu à la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ, n'est pas sans rappeler effectivement le retour des exilés hébreux sur leur terre, retour dont la reconstruction du temple a été le paroxysme. Ces événements, comme on le sait, ont eu un tel impact sur les juifs de l'époque qu'ils n'ont pas manqué de donner lieu à un regain de prophétie sur la venue du Messie, confère Zacharie chapitre 9 à 12 et Malachie chapitre 3 versets 1 à 4. Donc, signalons qu'il n'y a pas que l'Apocalypse ou les passages eschatologiques de l'Évangile, confère Matthieu 24, 1-44, Marc 13, Luc 21, 8-36, donc ces passages eschatologiques proprement dit l'Évangile, qui se prêtent à cette interprétation. En guise d'exemple, je vous propose celui-ci tiré du Nouveau Testament. Le sacrifice d'Isaac, Genèse 22, verset 1-19, passage choquant en son sens littéral, annonçant la résurrection des morts. Que vous trouverez en cette interprétation, vous trouverez en Hébreux 11, verset 17-19. Comme vous pourrez le voir avec les exemples qui sont enregistrés à part, mais qui figurent à la fin de cet exposé sur la page web, donc il y a de multiples passages qui sont susceptibles d'être interprétés de manière analogique. Pour clarifier, on pourrait résumer tout ce qui vient d'être déjà dit en ces quelques phrases. L'analogie, qui veut dire élévation, traduit effectivement une élévation de la pensée et procure un mouvement vers les réalités transcendantes de l'au-delà. Elle constitue la vie future pour les humains encore immergés dans le temps. Disons en une formule ramassée que, de même que l'Ancien Testament préfigurait le nouveau, allégorie, ce dernier annonce comme en un miroir flou ce que sera la vie éternelle, anagogie. Ainsi, Naaman était-elle l'ombre annonciatrice de l'Eucharistie, Jean 6, 32-35, 49-51, mais l'Eucharistie à son tour est le gage de la gloire à venir ou encore la ville de Jérusalem que l'on peut considérer comme l'ombre de l'Église de la Terre qui est elle-même figure de la Jérusalem céleste, Apocalypse 21, 2. En conclusion, nous pouvons affirmer que cette interprétation est intéressante car elle est porteuse d'espérance. À l'instar du sens moral qui peut nous montrer la victoire finale de la grâce du Christ dans l'âme du pécheur, le sens analogique nous assure de la victoire finale du Christ à l'échelle de l'histoire. Aussi bien loin de nous décourager face au déclin de l'Église dans notre société, souvenons-nous en lisant les Écritures de manière analogique que la lumière est au bout du tunnel et que le déclin n'est qu'annonciateur de la victoire finale du bien sur le mal. De plus, l'approche analogique nous rappelle notre véritable but, le ciel, et nous aide à relativiser les échecs et les épreuves que la vie peut nous réserver, Romains 8, 18, Philippiens 3, 14, 2 Corinthiens 4, 17 à 18. Donc cette interprétation analogique est source de joie chrétienne en nous aidant à être heureux quelles que soient les circonstances extérieures, Philippiens 4, 4. Enfin, signalons que l'interprétation analogique, en tournant nos yeux vers l'invisible, est un excellent rappel de cette vérité énoncée par Paul. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Et là, dans la page web, vous avez aussi de nouveau un résumé de l'interprétation analogique sous forme de croquis. Donc maintenant, en conclusion, en guise de synthèse de ce qui vient d'être dit, je vous propose divers points de vue qui ont tous le mérite de bien récapituler ce que sont les sens spirituels les uns par rapport aux autres. Tout d'abord, ce distique médiéval qui résume la signification des quatre sens. Le sens littéral enseigne les événements, l'allégorie ce qu'il faut croire, le sens moral ce qu'il faut faire, l'anagogie vers quoi il faut tendre. C'est Augustin de Dacy qui a dit ça. Voici un autre résumé tout aussi éclairant sous forme d'exemple. Les quatre figures se trouveront réunies, si bien que la même Jérusalem pourra revêtir quatre acceptions différentes. Au sens historique, elle sera la cité des Hébreux, au sens allégorique, l'Église du Christ, au sens anagogique, la cité céleste, qui est notre mère à tous, au sens anthropologique, l'âme humaine. Ceci est de Jean Cassien. Et enfin, le sens allégorique fait la relation entre le passé et le présent. Le sens anthropologique cherche dans le texte des figures, des vices ou vertus, des passions, des étapes que l'esprit humain doit parcourir dans son ascension vers Dieu. Ce sens concerne surtout le présent. Le sens anagogique est obtenu par l'interprétation des Écritures afin de donner une idée des réalités dernières qui deviendront visibles à la fin des temps. Ce sens concerne l'avenir. Alors, ici suit alors un chapitre, un schéma récapitulatif sur la page web que vous pourrez imprimer. Je vais essayer quand même de vous le lire, on verra ce que ça donne. Alors, schéma récapitulatif pour lire la Bible. Donc, il n'est pas inutile de rappeler que ce schéma n'est qu'indicatif à qui va vous être lu et que vous pourrez télécharger donc sur la page web correspondant à ce que je lis. Ainsi donc, il n'est pas toujours possible d'appliquer tous les sens spirituels à un texte. De même, la démarche proposée donc dans ce schéma peut être utilisée fréquemment mais pas systématiquement. C'est à l'esprit qu'il convient de vous guider. Ce résumé est à utiliser avec les différents résumés que j'ai indiqués là sous forme de liens dans mon enregistrement, donc ces résumés qui ont été fournis pour chaque sens spirituel. Alors voici. Donc d'abord, priez l'esprit de vous guider dans votre interprétation. Ensuite, on peut pratiquer l'approche littérale ou historique à l'aide éventuellement des approches historico-critiques et rhétoriques. Cette phase de la méditation équivaut également à l'étape où on laisse l'interprétation libre sans adopter forcément tel ou tel sens spirituel, même si spontanément l'un des sens spirituels peut surgir dès ce moment-là. Donc à ce moment de la lecture méditative, donc après l'approche littérale ou historique, on peut aussi faire place à l'interprétation anthropologique centrée sur la vie quotidienne. Après, on peut aborder le sens allégorique. Donc attention, le sens allégorique, notamment dans la recherche de symboles ou d'allégories centrées sur le Christ, la prière et l'action, ou la parole, etc. Ces allégories devant servir de point de départ pour les interprétations anthropologiques et anagogiques. Donc on pourrait dire que c'est le sens allégorique dit introductif. Donc ici, il y a, après, une fois qu'on a pratiqué ce sens allégorique introductif, il y a le sens anthropologique ou moral, celui centré sur la vie intérieure, puisque celui anthropologique, donc centré sur la vie quotidienne, a été fait entre le sens historique et le sens allégorique, et enfin le sens anagogique. Je voudrais aussi préciser que le sens allégorique 1, que j'ai nommé introductif, est différent du sens allégorique 2. Le sens allégorique 2 donc nous rappelle en effet que l'amour du Christ finit toujours par triompher à l'échelle de l'âme et de l'histoire, ce qu'on fait à la résurrection. De plus, le Christ nous rappelle la manière dont la victoire est assurée, par l'amour et la patience tels qu'ils ont été pleinement manifestés sur la croix. Donc, ce sens donc rappelle la finalité de toute chose, sens allégorique 2, et le moyen d'y parvenir, dont les sens anthropologiques et anagogiques nous montrent le terrain d'action. La victoire dans l'âme, c'est ça le terrain d'action, donc, dans l'histoire sur le mal, à la fin des temps, par exemple. Le sens anagogique peut aussi bien surpointer vers la finalité de l'action divine. Donc je veux dire par là que le sens allégorique 2 est à pratiquer en même temps que le sens anthropologique centré sur la vie intérieure et le sens anagogique. Voilà. Donc je vous rappelle que si ça vous paraît un petit peu confus, là, lu comme ça, vous pouvez donc télécharger ce schéma et le lire à tête reposée, y compris l'avoir sous les yeux quand vous méditez un texte de la parole. Donc, une petite remarque, tous ces résumés, donc, dont celui que je viens de lire et les autres pourraient télécharger pour le sens anagogique, tropologique, allégorique, dont vous avez les schémas, donc, peuvent tout naturellement s'utiliser en complément des offices mis à disposition sur ce site. Vous pouvez par exemple avoir à côté de vous ces résumés au moment de méditer le texte biblique de l'office du jour. Cela constituera un bon entraînement. Et enfin, je vous propose quelques exemples. Commençons par deux exemples d'interprétation des pères de l'Église, les deux étant de type tropologique ou moral, l'un concernant l'Ancien Testament, l'autre le Nouveau. Par exemple, le passage de la mer Rouge, Exode 14, 21-29. Tous ceux qui passent par l'eau sacramentelle du baptême doivent faire mourir dans l'eau l'armée des vices qui leur font la guerre, comme l'avarice, les sentiments de vanité et d'orgueil, les élans de violence, la colère, la rancune, l'envie, rompant ainsi la continuité de l'engrenage du mal. Ceci est de Saint Grégoire de Nice. Notons que l'allégorie, le passage de la mer Rouge comme préfiguration du baptême, est ici le point de départ de l'interprétation morale. Ensuite, ce passage de Matthieu 10, versets 17 à 22. Jésus dit à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. » Donc voici l'interprétation qu'en donne saint Ambroise. Dans les persécutions du dedans, également, il y a des rois et des gouverneurs, des juges au pouvoir redoutable. Tu en as un exemple dans la tentation subie par le Seigneur. On lit encore ailleurs que le péché ne règne pas dans notre corps mortel. Tu vois devant quel roi tu vas être. Que dans les persécutions du dedans également, il y a des rois et des gouverneurs, des juges au pouvoir redoutable. Tu en as un exemple dans la tentation subie par le Seigneur. On lit encore ailleurs que le péché ne règne pas dans notre corps mortel. Tu vois devant quel roi tu vas comparaître, ô homme, devant quel gouverneur de péché, si c'est le péché qui règne. Il y a autant de rois que de péchés et de vices. Et c'est devant eux que nous sommes amenés, devant eux que nous comparaissons. Ces rois-là ont encore leur tribunal dans l'esprit d'un grand nombre. Mais celui qui confesse le Christ paralyse aussitôt le pouvoir de ses rois. Enfin, passons maintenant à trois passages de la Bible, chacun ayant donné lieu à une interprétation spirituelle différente chez les pères de l'Église. D'abord, Josué 2, 18, le fil écarlate qui pend de la fenêtre de Rahab. Donc, le fil écarlate, dans son sens allégorique, c'est le fil écarlate qui représente le sang du Christ qui nous sauve. Ensuite, ce passage de Jean 4, verset 28. La cruche que déleste la Samaritaine, voilà son sens moral. La cruche délaissée représente les convoitises de la chair qui n'ont plus cours après la rencontre du Christ. Et enfin, Marc 6, verset 39. L'herbe verte sur laquelle Jésus fait asseoir les foules lors de la multiplication des pains. Voici le sens anagogique. L'herbe représente le jardin du paradis et les frais pâturages où le bon pasteur nous mène. Donc, ici va se conclure l'enregistrement des sens tropologiques, anagogiques et la conclusion avec quelques exemples que j'ai donnés. Mais je voudrais signaler que dans la page web se trouvent d'autres exemples, bon, de mon cru, sur différents textes avec toutes les analyses possibles, beaucoup plus complètes. Avec tous les sens pour tel ou tel texte biblique donné. Il y a, je crois, 7 exemples bibliques. Et sur cette même page, vous avez en plus un lien en bas de page sur des études bibliques complètes que vous pouvez utiliser vous-même, pour vous-même ou dans des groupes bibliques, utilisant ces sens historiques et spirituels. Donc n'hésitez pas à aller sur la page web pour lire et télécharger ces études bibliques basées sur les 4 sens traditionnels. Et je veux enfin signaler que tous ces exemples bibliques dont je viens de parler sont lus dans un autre enregistrement. Il suffit d'aller sur la page des enregistrements donc disponibles sur prière.org et vous pourrez télécharger l'enregistrement de ces commentaires bibliques. Voilà, merci de votre attention.